Bonjour, bonjour Jérôme.
Et bonjour.
Et bonjour Jérôme, puisque j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Jérôme Chantreau.
Bonjour.
Bienvenue à notre émission La Personnalité du Mois. Et nous allons tout de suite démarrer cette interview par la classique question du début.
Effectivement, Jérôme, est-ce que vous accepteriez pour commencer de vous présenter, s'il vous plaît ?
Bien sûr, alors je suis Jérôme Chantreau, je suis aujourd'hui auteur, écrivain, à temps plein, puisque je suis en disponibilité de l'éducation nationale, mais sinon je suis professeur au Pays Basque, à Bayonne, au lycée L'Argenté. Voilà, je suis né à Paris au siècle dernier, je suis au Pays Basque depuis 20 ans.
Merci.
Jérôme, quel est votre parcours ?
Alors, mon parcours, donc, c'était à Paris. Alors, comme tous les Parisiens, j'ai des origines ailleurs. Les miennes sont mayennaises. Alors, la Mayenne, c'est ce département qu'on traverse en général quand on va en Bretagne. On ne s'arrête pas en Mayenne. Bon, moi, je m'y suis arrêté. Et donc, une famille de forestiers. Voilà, on est très proche de la forêt. D'ailleurs, mon premier roman raconte ça. Donc voilà, des études à Paris, à la Sorbonne, des études de lettres. Et puis l'enseignement, pas tout de suite après. Moi, j'ai travaillé justement dans la forêt comme sylviculteur, aussi monté un centre équestre avec ma sœur. Voilà, plein de choses un peu différentes, souvent liées à la nature, aux animaux. Et puis finalement, l'enseignement dans l'éducation, l'enseignement catholique d'ailleurs, dès le départ en Mayenne, et puis très vite au Pays Basque. Parallèlement, il y a toujours eu cette idée d'écrire. Alors, c'est peut-être aussi le choix de l'enseignement, c'était peut-être aussi ce fameux mythe que l'enseignant a du temps pour écrire ou pour faire des choses. Bon, alors ce n'est plus vrai, hein, je le dis à ceux qui compteraient là-dessus. Non, ça ne marche plus comme ça. Après, font une famille, des enfants, voilà, tout ça. Finalement, mis un peu les bouchées doubles pour publier un premier roman à 45 ans. Et puis ensuite, le deuxième, là je suis passé à mi-temps. Et puis, vous voyez, le troisième, finalement, me permet, me donne la chance d'être, de tenter l'aventure et d'être écrivain à plein temps.
Très bien. Est-ce que pour nos auditeurs, vous auriez la gentillesse de partager avec nous une anecdote d'école ?
Oui, alors j'en ai évidemment beaucoup, puisque j'ai plus de 20 ans d'enseignement, donc ça fait beaucoup d'anecdotes. Moi, j'aimerais parler justement de quelque chose qui se passe dans le livre, que je raconte alors très très rapidement, que j'évoque en fait, mais auquel je tiens beaucoup. À L'Argenté, il y a une grande culture du projet, de la mise en projet, et puis même d'aller à l'extérieur des murs, d'en sortir. Moi, j'ai fait un voyage humanitaire au Sénégal qui m'a beaucoup touché. Mais voilà, ce que j'aimerais raconter là, c'est les chemins de Compostelle qu'on faisait donc avec les élèves. Alors moi, je l'ai fait tout seul avant. Et puis après, à L'Argenté, on faisait ça 10 jours par an, sur un temps de vacances. Donc là, on avait vraiment des élèves, en général, de lycée, extrêmement motivés, puisqu'ils sortaient de cours, ils passaient leurs vacances à marcher 8 heures par jour, et puis ils revenaient en cours en suivant. Donc voilà, des gens assez exceptionnels. Et parmi ces personnes-là, Dana, donc, qui est dans mon livre que j'évoque. Et voilà, donc j'ai le souvenir de ces élèves, d'elle et d'autres comme ça, sur les chemins de Compostelle, un fameux jour de pluie, de grêle, de froid. On arrive dans une sorte de vieux monastère en Espagne qui sert d'auberge. Et en arrivant avec les accompagnateurs, on se rend compte qu'il n'y a pas d'eau chaude. Donc là, les jeunes sont vraiment, vraiment épuisés. Certains ne peuvent plus porter leur sac, d'autres ont des ampoules. Et puis arrive ce genre de petit miracle qui arrive souvent, c'est-à-dire que aucun ne fait la tête, aucun ne se plaint, ils se mettent tous à chanter, et puis on passe une magnifique soirée comme ça, sans que voilà, le manque de quoi que ce soit affecte leur humeur, voilà. Donc souvenir de ce courage, de cette joie aussi qui les a emplis, qui nous a tous emplis comme ça ce jour-là.
Et est-ce que ces jeunes, après cela, ont changé votre regard, alors sur vous ou sur les autres accompagnateurs, les autres adultes, grâce à ce moment fraternel finalement ?
Ah oui, 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 bien sûr. Oui. Oui, changer. Alors, pas changer parce que je pense pas qu'il avait besoin d'être changé, mais approfondi véritablement. Oui. On sort de là avec beaucoup de foi dans les gens et aussi beaucoup de confiance dans ce qu'ils sont capables de donner.
Parce que là, c'est un moment de vérité. Chacun est là en vérité. Peut-être que quand on est dans l'enseignement et qu'on enseigne, on est un peu dans un rôle de composition malgré tout.
Bien sûr.
Peut-être
bien
un peu
sûr.
Ça qui fait la différence.
Mais je le raconte dans mon livre avec ce bel hasard qui, donc lui, était un élève que j'ai eu à Stella Maris. Donc avant l'Argenté, et c'est ce que je raconte, c'est-à-dire que je ne pense pas être un professeur distant avec ses élèves, mais en fait j'étais passé complètement à côté de lui. Alors je me doutais bien, et d'ailleurs mes collègues qui l'ont eu à Stella se doutaient bien aussi qu'il était très intelligent, qu'il était plein de richesses, mais on est pris par le rythme de l'année, du programme, par tout un tas de choses, et on ne peut pas s'arrêter, malheureusement. Ou alors on ne trouve pas le temps de s'arrêter. Voilà, c'est vrai que ce genre de moment comme ça où on sort de l'école et on va faire vraiment des choses fortes permet de se dire, bon, ça vaut peut-être le coup de s'arrêter un peu et de regarder qui ils sont vraiment.
Est-ce que tous les enseignants devraient pouvoir vivre des temps comme ça en dehors de leur classe ?
Ah, moi j'en suis persuadé. Oui. Aussi bien voilà les voyages humanitaires au Sénégal ou ailleurs, les chemins de Compostelle, je sais que je l'ai pas fait, mais Lourdes par exemple, c'est un moment dont tous les jeunes reviennent absolument bouleversés, la table du soir, voilà, tous ces projets là qui me semblent essentiels effectivement pour les jeunes et aussi pour les professeurs.
On n'enseigne plus après, plus pareil après.
Non. On n'enseigne plus pareil. On est plein de confiance, plein d'énergie, plein d'envie. Et il faut réactiver évidemment, parce que le réservoir se vide au fil de l'année. Il faut réactiver régulièrement.
Alors on va revenir un petit peu plus sur Bel-Hazard. Bon, c'est un livre absolument fantastique que j'ai eu la chance de lire et Jérôme aussi je crois en partage, donc vraiment je conseille à tous les grands, parce que pour les enfants c'est un peu juste, mais pour tous les adultes de le lire. Vous avez passé beaucoup de temps sur ce livre et il en ressort quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous pouvez, pardon, mais en quelques minutes nous raconter cette aventure d'écriture?
Alors, l'aventure d'écriture, c'est donc cet élève que j'ai eu à Stella Maris, qui est un breton, mais qui a passé 4 années au Pays Basque, et qui, donc, de retour en Bretagne, est mort lors d'un contrôle de police dans des circonstances extrêmement mystérieuses. Et puis, tout ce qui va suivre son décès est là aussi à la fois mystérieux et même tragique. Il y a voilà, une sorte de malédiction qui s'abat sur lui et sur les gens qui en fait s'occupent de faire arriver la vérité, puisqu'on ne sait pas vraiment comment il est mort. Moi j'ai mis 4 années a déjà décidé de l'écrire. Il y avait un petit côté Toutankhamon, la malédiction de Toutankhamon qui je l'avoue, hein, faisait un peu peur, me faisait reculer. Donc 4 années pour décider de l'écrire. Et puis quand je l'ai écrit, j'avais en tête d'écrire une sorte de fait divers, hein, de roman sur un fait divers. Il y a plein d'auteurs qui font ça, Philippe Génada, Florence Aubenas, Emmanuel Carrère, voilà, plein de très grands auteurs qui font ça, et bon, je pensais faire ça. Et puis, la rédaction a duré 3 ans et demi. Et au cours de la rédaction, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie personnelle et même dans l'entourage du livre, puisque j'ai même perdu mon éditeur en cours de route, ce qui n'arrive au principe jamais. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé, des transformations très profondes, y compris dans ma vie, ont fait que je me suis injecté comme personnage, ce qui n'était pas du tout le projet au départ. Je voulais vraiment faire quelque chose d'assez, j'allais dire, froid, un peu journalistique. Et puis finalement, autre chose s'est imposée. Donc, moi, me mettre dans l'histoire, alors j'espère au second plan, hein, mais en fait, il fallait que je raconte ce qui m'arrivait au moment même où j'écrivais. Une sorte de genèse du livre qui, pour moi, avait valeur d'exemple. Exemple de quoi ? Ben, exemple que ce gamin, Belhazar, en réalité, change des vies. Il les changeait de son vivant et j'en suis persuadé, et d'ailleurs mes éditeurs en sont tout aussi persuadés parce que c'est leur arrivé aussi à eux, ils changent des vies encore maintenant. Voilà, donc l'histoire raconte alors un peu les conditions du décès donc de ce fait divers de ce garçon, beaucoup plus sa vie, puisque je me suis aussi aperçu que c'était pas sa mort qui m'intéressait mais bien sa vie, et c'est une vie extraordinairement riche pour quelqu'un mort à 18 ans, à mon avis un très grand artiste en devenir, et même peut-être pas en devenir, peut-être qu'il l'était déjà, une sorte de voilà, d'être extrêmement lumineux. Et puis aussi une réflexion sur soi, voilà, comment on change les vies, c'est un peu notre sujet finalement depuis le début, voilà, entre le chemin de Compostelle et Belhazar.
Vous avez passé beaucoup de temps avec son papa et sa maman.
Oui.
Ça a changé votre vie, ça aussi, c'est pas commun qu'un écrivain passe autant de temps avec des personnes extérieures, je trouve, pour pouvoir raconter une histoire. Et là, c'est très très fort tout au long du... On apprend à les connaître et du coup à comprendre ce que c'est qu'être père, qu'être mère dans des situations comme celle-ci.
Oui, les 2 ans et demi au début de recherche, ça a été ça. Ça a été en fait d'être avec les parents, de recevoir ce qu'ils me voulaient bien me donner. Ils m'ont donné beaucoup, hein, de matériaux en fait pour le livre. Et puis d'arriver à trouver quel était le livre qu'on pouvait en faire. Voilà. Donc ça, c'était effectivement un travail en commun très fort. Et puis il y a un moment où, et je pense que d'ailleurs ce moment il est marqué même dans le livre, il y a un moment où l'auteur s'échappe. Hein, voilà, le moment où le texte ne devient plus une simple succession de faits, mais un vrai texte littéraire. Et c'est pour ça que, d'ailleurs je sais que ça a pu surprendre quelques lecteurs, mais c'est un livre qui commence vraiment dans le réel. La première phrase, c'est « tout est vrai », et tout est vrai, même ce qui semble complètement fou, tout est véritablement vrai. Et puis ce texte réaliste va faire son chemin et aller jusqu'au peut-être au merveilleux, en tout cas aux sortes de contes. Voilà. Mais je pense que c'est Belhazar qui m'y a mené lui-même.
Est-ce qu'on peut imaginer, peut-être espérer, je vais me livrer un peu plus, que Belhazar un jour soit une affiche au cinéma ?
C'est ce que veut sa mère, notamment. On a eu pas mal de contacts là-dessus. C'est assez lent. Le contexte ralentit aussi beaucoup les projets audiovisuels. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est possible. Belhazar sort au mois d'août en poche. Chez J'ai lu, et je pense que ça sera une sortie qui va, en tout cas c'est la volonté de la directrice de J'ai lu, qui fait partie de la congrégation du Lapin Blanc. Je la vois tous les jours s'enrichir, cette congrégation du Lapin Blanc, voilà, c'est-à-dire des lecteurs qui deviennent plus que des lecteurs, hein, qui sont voilà, marqués du sceau de Belhazar. Alors elle en fait partie, et je sais qu'il y a une sortie qui va être très très forte au mois d'août autour de ce livre. Et puis la sortie en poche, c'est très concrètement, hein, le livre coûte 3 fois moins cher. Et donc le public, notamment le public de jeunes, est beaucoup plus accessible à ce moment-là. Donc je pense qu'effectivement, la sortie va relancer beaucoup de choses et peut-être beaucoup de projets.
Et du coup, à ce sujet, enfin, excuse-moi, vous parlez des jeunes, vous avez eu l'occasion d'échanger justement avec des lycéens qui auraient lu cet ouvrage, l'occasion d'en discuter avec eux, de voir comment ils le recevaient.
Oui, alors en ce moment je fais pas mal de masterclass donc avec le CNL dans les lycées. En général, ce sont des jeunes qui n'ont pas lu, voilà. Mais ils sont très très à l'écoute, très très intéressés, mais c'est plutôt des lecteurs futurs. Ceux qui m'ont marqué énormément, c'est ceux qui ont connu Bellazare, puisque ici il y en a beaucoup, et quand j'ai fait des rencontres en librairie, il m'est arrivé de rencontrer beaucoup de ces jeunes qui ont maintenant 26 ans à peu près, et qui l'ont connu, qui l'ont bien connu, et qui me disent c'est lui, voilà, qu'ils le reconnaissent. Et je peux vous dire que son souvenir est extrêmement présent encore aujourd'hui dans leur esprit.
Est-ce que finalement, ce qu'on peut retenir, nous, en tant qu'enseignants, c'est l'accueil de tous les jeunes et surtout peut-être ceux qui ont, alors soit on dit des besoins particuliers ou des particularités ou qui sont extraordinaires et qu'on a un vrai travail là-dessus à faire?
Oui. Au début, je voulais vraiment presque faire une sorte de brûlot contre l'éducation nationale. J'étais vraiment révolté un peu contre ça, cette incapacité qu'a l'école en général de ne pas pouvoir accueillir ceux qui sortent des cases, ceux qui sortent des choses. Et je le pense encore, mais j'ai quand même un petit peu adouci mon jugement. D'abord, je pense que depuis une quinzaine d'années, ça s'améliore. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, d'ailleurs tant dans le public que dans le privé. Le constat n'est plus le même. On accueille les hauts potentiels, on a toute une sorte de panoplie de contrats, PAP, etc., qui sont mis en place. Voilà, ça avance lentement, mais ça avance. Après, la question, c'est que faire de ces... Et là, c'est même plus les difficultés d'apprentissage. Que faire de ces enfants qui regorgent de savoir et comment utiliser ces richesses? L'exemple que je cite souvent, c'est que Bellazare, au collège, il devait avoir 2 ou 3 de moyenne en art plastique. Et j'ai appris au fil de mon enquête qu'au même moment, il exposait des toiles et il en vendait à 15 ans. Alors d'abord, je ne connais pas d'auteur, de peintre qui ait vendu des toiles à 15 ans, mais voilà, ça montre le grand écart. Moi, en toute honnêteté, je me dis, est-ce que ça, c'est une responsabilité que doit porter l'école? Je ne le pense pas. Je pense que c'est autre chose qu'un problème vis-à-vis de l'école, ce dont Bellazare témoigne, c'est être un artiste. Est-ce que c'est le rôle de l'école de former les artistes? Sans doute pas. Voilà. Donc vous voyez, ma réponse est assez nuancée. Je pense qu'il faut que l'école continue d'accueillir, continue de s'ouvrir. Alors comme je le disais peut-être au début aussi, on multiplie les occasions de rencontrer, voilà, les jeunes. Ça oui. Après, faire porter sur les épaules des enseignants toute la responsabilité, il faut aussi voir que le métier d'enseignant, c'est un train qui avance à grande vitesse, et ils ne peuvent pas tout faire.
Mais peut-être permettre aux enseignants de prendre de la hauteur de vue sur les situations et projeter à la fois des choses positives et bienveillantes, et simplement dire aux jeunes en fait que tout est possible et qu'ils ont du potentiel, y compris s'il n'est pas académique. C'est peut-être ça aussi qu'on peut dire aux profs. Pensez ça, vivez-le et faites ça toute votre carrière, et peut-être que vous aiderez des jeunes. Effectivement, les rencontres, c'est le cas aujourd'hui, hein, nos auditeurs en profiteront, fait partie des choses que les enfants peuvent développer.
Est-ce que après un tel livre, vous avez déjà des projets d'écriture?
Oui, oui, bien sûr, je suis dans le prochain livre. Oui, 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 un roman historique qui se passe à la fois à Paris au 19e siècle et au Pays Basque. Figurez-vous.
Très bien.
Très bien.
Voilà, on attendra avec attention et beaucoup de plaisir la sortie.
Le teasing était très bon. Parfait. Et pour la dernière question, notamment parce que vous êtes enseignant, est-ce que vous avez un regard particulier sur ce petit projet de web radio là, auquel vous êtes invité aujourd'hui ?
Ah ben moi, je trouve ça formidable. Hein. Encore une fois, c'est une manière d'ouvrir. Hein, de sortir des murs, alors là c'est par les ondes, mais ça c'est, il me semble très important. Puis comme je le vois aussi dans mon établissement, oui, à l'Argenté, où il y a aussi une web radio, ce qui est très intéressant pour moi, c'est de sensibiliser les jeunes, alors à l'interview, à la rencontre de l'autre, à la curiosité, aussi à la manière de s'exprimer. L'oralité, ça me semble ça quelque chose, une notion extraordinairement importante à développer, notamment en France où on n'est pas très très bon par rapport aux anglo-saxons par exemple là-dessus, donc oui, ça me semble un projet extrêmement important.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci Jérôme Chantron d'être venu.
Merci de notre accueil.
Merci Jérôme Gaillard. Et à très bientôt pour la prochaine personnalité du mois.
Merci.